Bien, mais je crois que nous pouvons commencer la seconde et dernière conférence de José Emilio Borucoa, notre invité, à Anne Chang et à moi-même. Quelques mots d'introduction, même si pour certains qui étaient là jeudi dernier, ça pourrait paraître un peu répétitif, mais dans ce cas-là, peut-être que les choses dites deux fois plaisent. Je rappellerai simplement donc José Emilio Borucoa, que tous ses amis appellent Gaston, alors il a deux ou trois prénoms, est professeur à l'Université nationale San Martín à Buenos Aires et qu'il a fait l'essentiel de sa trajectoire d'enseignant à l'Université de Buenos Aires, la UBA. Ayant commencé des travaux sur l'Italie de la Renaissance et en particulier sur les textes que Galilée a consacrés aux arts figuratifs, il s'est ensuite orienté dans plusieurs directions que j'avais rappelées la fois dernière. Je vais essayer de le faire un peu différemment. La première direction, c'est évidemment d'une attention portée aux représentations, soit des représentations textuelles, soit des représentations iconographiques. Et les deux objets qui ont été privilégiés dans cette perspective d'études de représentation par José Emilio Borucoa sont d'un côté le rire, toutes les formes de la représentation et à travers les représentations, évidemment, de la pratique du rire dans ce qu'il appelle la première modernité classique entre 15e et 17e siècle. Et un de ses livres les plus importants ou les plus classiques, je vais réapporter aujourd'hui, c'est ce livre Cordero y Elefantes, les agneaux et les éléphants, et qui est consacré à une étude très systématique, très méticuleuse des textes sur le rire, quelle que soit leur relation avec le rire, provoquer le rire, décrire le rire, analyser le rire, condamner le rire, se trouve dans cet ouvrage. Et plus récemment, dans un travail d'équipe, il s'est attaché presque à l'envers de cette première réalité, puisqu'il a consacré de nombreux travaux aux représentations, dans ce cas-là iconographiques, picturales ou bien à travers le dessin, aux représentations des massacres et des génocides. Cet premier axe de recherche est évidemment lié à un second axe, qui est un axe de réflexion sur l'histoire de l'art. Et si vous étiez là jeudi, vous vous souvenez combien, dans l'étude de cas qu'il avait présenté, les rapports entre Léonard et Altdorfer étaient présentes des interrogations sur l'histoire de l'art elle-même, c'est-à-dire sur les catégories que peut ou doit manier l'histoire de l'art. Dans cette perspective-là, qui est celle qui est aussi sous-jacente à la conférence d'aujourd'hui, il a travaillé sur cette pratique et théorie de l'histoire de l'art que on enracine dans l'œuvre de Abi Warburg, et j'avais rappelé le livre qu'il a consacré à l'histoire de l'art entre Warburg et Ginsburg, et en particulier sur des interrogations que nous avons rencontrées la fois dernière dans les relations entre des analyses morphologiques qui repèrent des formes identiques dans des contextes sans lien et des interrogations historiques sur les possibilités de transmission, d'appropriation, d'hybridation que représentent des contacts entre des artistes ou entre des écoles ou entre des formes esthétiques. Je ne l'avais pas dit la fois dernière, mais dans cette perspective d'histoire de l'art, il a aussi dirigé et contribué à deux volumes, un volume collectif qui était une nouvelle histoire argentine, Nueva Historia Argentina, et le volume A, Société politique, c'était publié par l'Editorial Sudamérica, était le produit de sa réflexion et de l'organisation d'un travail collectif, puisque José Emilio Borucoa est aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts d'Argentine à Buenos Aires. Et la troisième axe de travail, de réflexion, d'écriture, et la proposition de livres qui sont difficiles à capter à l'intérieur d'une catégorie particulière, comme je l'avais dit, les Cartas Americanas, le livre sous forme épistolaire qu'il a consacré à son rapport, sa découverte, ses découvertes et ses relations avec les États-Unis à l'occasion d'un séjour de recherche au Getty Institute en Californie. Il est en train d'écrire, comme je l'avais dit, les Cartas Alemanas, les lettres d'Allemagne, puisqu'il passe l'année, sauf ce moment où il nous fait le plaisir de venir ici au Wissenschaftskolleg à Berlin. Et puis aussi ce livre tout à fait fascinant, fondé sur des documents historiques, particulièrement des documents liés avec une histoire de famille, mais qui en même temps est écrit dans une manière qui à la fois satirique et émouvante, propre et originale, et consacré à sa propre histoire, ou l'histoire à la fois de ses deux familles, celle de sa femme et celle de la sienne propre, sous le titre Encyclopédia BSE, le B pour Buruqua et le SE pour Schreiber, qui est l'objet, la famille de Schreiber, l'objet de ce premier volume extrêmement original et puissant, et comme je le disais, à la fois dans une veine satirique, parodique, et en même temps avec une charge émotionnelle extrêmement forte. Alors c'est tout cet ensemble qui se croise dans tous les travaux de José Emilio Buruqua, et aujourd'hui, le deuxième volet de ce qu'il a préparé pour les conférences au Collège de France commence avec un tableau, et le titre de la communication est « La scène à Emmaüs, la reconnaissance de l'absent entre la peinture vénitienne de la Renaissance et l'œuvre de Rembrandt ». Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais que Han Cheng, qui l'a invité avec moi, dise quelques mots d'introduction et avant de lui céder la parole.
Merci beaucoup, Roger Chartier. Et très peu de mots en réalité. Simplement pour expliquer ma présence ici, qui doit en intriguer plus d'un parmi vous, sans doute. D'abord pour vous présenter mes excuses pour mon absence lors de la première conférence du professeur Buruqua. J'étais empêchée donc jeudi dernier, mais je suis d'autant plus contente justement d'être ici aujourd'hui que j'ai en fait une dette personnelle envers le professeur Buruqua qui m'a accueillie avec beaucoup de générosité et d'intelligence à Buenos Aires il y a un peu plus d'un an, donc au printemps de l'année dernière. Je découvrais l'Argentine, ça a été vraiment une découverte totale pour moi. Et évidemment, la chance que j'ai eue, ça a été, imaginez-vous, enfin, de rencontrer le professeur Buruqua pratiquement en fait, au tout début de mon séjour. Et donc, j'ai pu tout de suite, à travers lui, ressentir justement cette... à la fois cette profondeur et cette largeur de vue qui amène justement le professeur Buruqua à s'intéresser à beaucoup de choses en dehors justement du champ stricto sensu de la culture d'origine européenne. Et c'est à ce titre qu'il a très généreusement accepté donc de lire et de commenter donc les conférences que j'ai eu l'occasion de faire à l'Université Saint-Martin. Et en quelque sorte, c'était pour moi très important donc de lui rendre la politesse en le recevant ici à Paris, donc au Collège de France. Donc merci à vous aussi d'être présent aujourd'hui. Merci.
Merci. Anne, et tu as la parole, et nous allons peut-être nous mettre de l'autre côté pour pouvoir
avoir donc,
le plaisir de suivre les images.
Je vous remercie deuxième fois aujourd'hui, vraiment pas seulement pour cette invitation qui me permet de venir à cette ville que j'aime et de revoir ma famille et vous revoir, mais surtout parce que mon remerciement va bien au-delà. Je vous suis débiteur, vous deux, du point de vue intellectuel, du point de vue spirituel aussi, tant des choses que j'ai apprises des livres et des entretiens avec Roger Chartier, et tant de choses que j'ai apprises lors de la visite de la professeure Cheng à Buenos Aires, et qui m'a ouvert des horizons imprévus sur l'histoire de la Chine, l'histoire culturelle de la civilisation chinoise. Donc c'est moi qui ai vraiment votre débiteur intellectuel. Donc, alors, je commence avec ma conférence. Et c'est en novembre 2012, à la Gemälde Galerie de Berlin, que j'ai vu pour la première fois une version de la scène à Emmaüs, peinte par le Vénitien Marco Marziale en 1507. Il y avait longtemps que je m'occupais de ce sujet en essayant de l'interpréter à la lumière du concept de reconnaissance, mais d'un type d'anagnorisis très particulier puisqu'il s'agirait d'identifier un mort qui revient au monde des vivants. La table de Berlin a attiré mon attention pour trois motifs. Premier, le Christ en quête de reconnaissance semble s'adresser directement au spectateur qui est hors de la scène. Toi qui regardes, dis si ce n'est pas moi, Jésus, le crucifié trois jours auparavant, qui est assis à cette table en train de partager le pain. Je suis parmi vous qui vivez, car je suis revenu à la vie, j'ai vaincu la mort. Je cite Augustin, vous, disciples, vous espériez, mais vous n'espérez plus. Regardez, le Christ vit, bien que votre espoir soit mort en vous. Deuxième trait, deuxième caractéristique. Cléophas, qui est le Dieu, Cléophas et son compagnon ne sont pas les seuls à porter le chapeau et le bâton du pèlerin. Le Christ lui-même nous montre ses attributs, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Chapeau est derrière hein, la tête du Christ. Troisième trait, c'est quelques signes astrologiques. Ici, 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 et même là. Hein? Quelques signes astrologiques se déploient sur les ailes des chapeaux et sur les capes de Jésus et de Cléophas. Donc ces trois traits transforment cette peinture en un cas iconographique exceptionnel. Le fait que la scène se déroule à l'extérieur de la maison d'Emmaüs, où Jésus avait été invité à se mettre à l'abri, peut aussi être considéré, sinon unique, au moins une rareté. En tout cas, si dans d'autres exemples du sujet à la Renaissance, on peut trouver un paysage de fond, derrière la figure du Christ, les personnages sont d'habitude sous le toit d'un portique. Ici, ils se trouvent sous une vigne qui fait partie de la nature. Une deuxième version du sujet, faite par le même artiste un an avant, en 1506, montre l'action dans une chambre fermée comme dans une scénographie et Jésus ne porte pas hein, les objets, les attributs du pèlerin. Le seul point commun entre les deux œuvres est le regard intense du Christ dirigé vers le spectateur. Il faut souligner aussi que l'identification du ressuscité comme pèlerin n'est pas une caractéristique générale du traitement du sujet entre le XVe et le XVIIe siècle. La situation pourtant était fluctuante. Souvent, Cléophas et son camarade sont les seuls pèlerins. Parfois le Christ l'est aussi, et dans quelques cas, très rares, seul le Christ est pèlerin. Il paraît possible qu'une table d'Al Tolbello Melone peinte autour de 1516 à Crémone, c'est-à-dire dans l'horizon de l'école vénitienne qui m'intéresse, ait été un des exemples plus émouvants de la dernière formule, c'est-à-dire le Christ, seul le Christ, le pèlerin. Ajoutons dorénavant que Mélone n'a pas choisi le moment de la scène, mais celui de l'apparition du Christ dans le chemin aux disciples qui fuient de Jérusalem vers Emmaüs. Je m'occuperai spécialement des deux œuvres citées, la version tardive de la scène de Marziale et le tableau de Mélone à la National Gallery de Londres. Dans la tradition chrétienne, Jésus ressuscité signifie le dépassement de la mort et le triomphe d'une seconde vie de l'individu racheté pour toujours. Cela dit, la nouvelle religion salvatrice accordait également une grande importance à l'acte extérieur de la reconnaissance que les vivants doivent assumer vis-à-vis du mort exceptionnel qui revient à la vie. Comme si lui aussi, le Christ, avait besoin de la configuration définitive et historique que les autres lui doivent. L'épisode d'Emmaüs, narré dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 24, constitue peut-être la manifestation la plus achevée de l'anagnorisis de la vie de Jésus. Sur le chemin de Jérusalem à Emmaüs, le Nazaréen rejoint Cléophas ainsi que notre voyageur, tous deux ses disciples qui ne le reconnaissent pas. Cléophas raconte à l'homme ce qui est arrivé depuis le procès et la mort de Jésus jusqu'à la disparition de son corps de la tombe. Or, l'inconnu s'avère être un grand érudit des Saintes Écritures et répond par une ample explication de ce que Moïse et les prophètes avaient annoncé sur la venue du Christ. Malgré cette démonstration, Cléophas et son compagnon ne se rendent toujours pas compte de qui les a rejoints sur la route. En arrivant à Emmaüs, l'homme est invité à partager le gîte et le couvert avec eux. Lorsqu'il rompt et partage le pain, Jésus ressuscité est reconnu. Je cite Saint Luc, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Arrêtons-nous d'abord à l'interprétation que saint Augustin a consacrée dans son sermon 236 au passage cité de Luc. Il convient de remarquer qu'Augustin a suivi la Vulgate Jérôme et a présenté le Christ comme un pèlerin, mais non ceux qui marchent vers Emmaüs et interrogent celui qui vient d'apparaître. Plus loin, Jésus est appelé « hospes » par Augustin, « hôte », lorsqu'il s'assied à la table et partage le pain, c'est-à-dire « hôte » de Cléophas et de son compagnon. Le pèlerin, « pelerinus », est « hôte »,« hospes » d'Emmaüs, et pour Augustin, le Christ même, et non l'un de ses disciples tel que l'a voulu l'exégèse du Moyen-Âge tardif, et de l'époque moderne, ainsi que la plupart de l'iconographie chrétienne occidentale. Toutefois, le plus intéressant dans la lecture du Père de l'Église est que le chapitre d'Emmaüs prouve la supériorité de la charité sur la connaissance. Car tandis que le troisième homme, le Christ, non, égrène tout son savoir biblique, les premiers voyageurs sentent brûler leur cœur sans le reconnaître. Ce n'est que lorsqu'ils l'ont reçu pour lui accorder le gîte et le couvert, c'est-à-dire lorsqu'ils exercent eux-mêmes la charité, que l'hôte leur apparaît comme qu'il est, Jésus ressuscité. J'insiste, c'est la lecture d'Augustin. La voie de l'accomplissement est double. À travers l'acte de charité, Cléophas et son compagnon donnent définitivement forme à la vie du pèlerin, tandis que le don de la grâce que celui-ci leur apporte en leur offrant l'occasion de l'aimer, joue son propre rôle dans la vie des disciples. La glose ordinaire, compilée par Anselme de Laon et ses disciples au début du XIIe siècle, a suivi les pères Jérôme et Augustin sur ce point-là. À propos du verset 18 du chapitre 24 de saint Luc, la glose dit: ils considèrent pèlerin celui qu'ils ne connaissent pas. Et vraiment, il était un pèlerin pour ceux devant lesquels il se tenait debout pour la gloire de la résurrection. Et devant la foi ignorante de cette résurrection, il restait comme un étranger. Mais la glose fait aussi des considérations précieuses sur la figure du Christ comme apparition tout au long de l'épisode d'Emmaüs, comme un phénomène optique particulier qui pose le problème de la connaissance du mort ressuscité. L'interprétation des versets 15, 16, 28, 29, 31, 32 tourne autour d'une image, species, dit la glose, de Jésus, que les disciples ne distinguent pas clairement, Une image qui est troublante jusqu'au moment où le pèlerin coupe le pain. Donc, je cite la glose. Quelqu'un est apparu sous sa propre image, in specie propria. Mais celle qu'il a montrée, ce n'était pas reconnaissable. Ceux-ci aimaient dans leur intérieur, mais doutaient aussi, parce que lui se fait présent et ne montre que celui qu'il est. Il exhibe donc une présence pour ceux qui en parlent, mais il cache son image connaissable pour ceux qui en doutent. Il s'est exhibé encore comme il l'avait dans leur esprit. Je traduis par dans leur esprit, in mente. L'observateur dit in mente. Il fallait prouver que s'il ne l'aimait pas encore comme Dieu, il l'aime au moins comme pèlerin. Et puisqu'ils ne peuvent pas rester étrangers à la clarté, alors que la vérité marchait à leur côté, ils l'exhortent à se loger chez eux et ils l'y obligent. L'image de la faiblesse devait s'effacer de leurs yeux charnels pour que puisse paraître la gloire de la résurrection dans leurs esprits. In mentibus. C'est ainsi qu'une autre figure, maintenant c'est le mot effigies, ce n'est plus species, figies, s'est manifesté en Christ devant eux, afin que du seul découpage du pain, il soit reconnu, de façon que tous puissent comprendre que le Christ n'est reconnaissable que grâce à la participation dans son corps, c'est-à-dire grâce à l'Église dont l'unité a été consacrée par l'apôtre dans le sacrement du pain. Et quand il a exposé le pain béni, les yeux se sont ouverts pour le reconnaître et fut levé l'obstacle que Satan avait mis dans ses yeux dans le but qu'il ne reconnaisse pas Jésus. Ça, c'est très intéressant parce que le glossateur, ici, suggère une intervention de Satan dans cet épisode de la reconnaissance du Christ. Ça, on va le retrouver tout de suite dans l'iconographie. Donc, le glossateur couronne son commentaire avec une démonstration du rôle unique et supérieur de l'Église dans le plan du salut de l'humanité et la défaite du diable. Mais à part ça, dans la première partie de l'histoire, la species visible du Christ empêche la reconnaissance de sa personne et par conséquent bloque la compréhension du fait que Jésus a fini sa vie terrestre pour vaincre la mort et donner lieu à ce que le glossateur appelle la gloire de la résurrection. Seul le partage du pain transforme cette species en effigies pleine du Christ neuf et définitif, sauveur du monde. De quelle nature serait donc la species pour les auteurs de la glose? Étant donné le rôle de la philosophie platonicienne dans la théologie d'Augustin et dans les glossateurs même, ce que réverbère le texte de commentateur de la première scolastique, il est probable qu'on ait conçu cette species à la façon du nombre ou d'une forme illusoire de la doxa, un sujet sur lequel nous reviendrons à la fin de cette présentation. Dans l'iconographie, ce penchant augustinien, qui domine la glosse ordinaire et accorde à Jésus le rôle de l'étrange pèlerin de l'anagnorisis, n'affleure qu'au début du XVIe siècle, à l'abri du vent de la rénovation et de la relecture intense de saint Augustin, effectuée par les intellectuels européens de part et d'autre de la ligne tracée par la réforme luthérienne. Grâce aux études de Carlo Ginzburg, Adriano Prosperi et Delio Cantimori, nous savons quelle a été la force d'un tel augustinisme dans l'expérience religieuse des humanistes, des théologiens et des mystiques italiens entre 1500 et 1540. Cette spiritualité a été fort probablement transmise aux artistes ayant travaillé pour les frères des ordres de Saint-Dominique et de Saint-Augustin durant ces années-là. Sous l'influence de Saint-Thomas, rappelez-vous que les dominicains reconnaissaient dans la figure d'Augustin la pierre fondatrice de la théologie. En 1506, Fra Bartolomeo a déjà peint une fresque d'une facture extraordinaire dans le réfectoire du couvent dominicain de Saint-Marc à Florence, sur laquelle, ici, le Christ d'Emmaüs porte l'habit de pèlerin. C'est lui seul qui le porte. Vasari a écrit sur cette œuvre. Je cite Vasari. Il a travaillé à la fresque un arc sous le réfectoire de Saint-Marc et a peint le Christ avec le Fas et Luc. Parce que Vasari croyait que l'autre pèlerin était Saint-Luc lui-même. Donc, Cléophas et Luc, qui est le portrait du frère Niccolò della Magna quand il était jeune, devenu après archevêque de Capoue et finalement cardinal. C'est ce personnage ici qui est un personnage réel. Mais ajoutons que le rapport plus étroit de ce peintre dominicain, Fra Bartolomeo et l'ordre agustinien, s'est produite 10 ans plus tard, lorsque, très proche de la mort déjà, Fra Bartolomeo a peint cette magnifique déposition dans un grand tableau d'autel, très pathétique, pour le couvent des Augustins auprès de la porte de Saint-Gall à Florence. Donc, la première version, celle-là, non, de 1506, la première version du sujet de la scène peinte par Marziale en 1506 a été inspirée par une œuvre perdue de son maître Giovanni Bellini, qu'on connaît grâce à une copie, voilà, aujourd'hui à la Gemäldegalerie aussi. On trouve bien dans le modèle que dans sa réplique, aussi bien dans le modèle que dans sa réplique, le regard direct de Jésus vers l'observateur de la représentation. Mais le Christ n'a pas, ni dans la version de Bellini, ni dans celle première de Marziale, n'a pas les insignes du pèlerin. C'est seulement cette deuxième version en plein air, faite par Marziale en 1507, j'insiste, qui nous présente les deux traits significatifs, le regard et le fait que Jésus est aussi un pèlerin. À l'interprétation tirée d'Augustin, s'ajoutent les signacula, sive caracteres stellarum, comme on les appelait à l'époque, de l'astrologie et de l'alchimie, qu'on retrouve ensuite dans l'œuvre, par exemple, de Cornelius Agrippa de Nettesheim, de Culta Philosophia, très très répandue, écrite entre 1509 et 1510. Le signe sur la cape du Christ, Voilà. Le signe sur la cape du Christ correspond à la constellation de la Vierge, tandis que celui sur la cape de Cléophas, ici, représente la convergence planétaire de Jupiter et Saturne. La Vierge est, d'après Pierre d'Ailly, qui a tracé l'horoscope du Christ, dans ce De Concordanti Astronomiae Veritatis et Narrationis Historicae de 1414, un siècle avant, l'ascendant de Jésus, la Vierge est le signe ascendant de Jésus, c'est-à-dire le signe déterminant de sa manifestation. C'est pour ça qu'il est là. L'année de sa naissance a été marquée aussi par la confluence des deux planètes majeures, Jupiter et Saturne. Mais qu'est-ce que tout cela signifie dans un contexte augustinien? Je pourrais ici déployer toute la question de l'horoscope du Christ, qui est une des plus passionnantes de l'histoire religieuse du XVIe siècle, mais évidemment, s'il y a après de questions, je pourrais revenir sur ce sujet. Mais ici, qu'est-ce que ça a à voir avec un contexte augustinien, surtout si l'on se souvient de la condamnation théologique et rationnelle de l'astrologie entreprise par Augustin lui-même au chapitre 2 à 6 du livre 5 de la Cité de Dieu, avec un fameux argument, que c'est l'argument des jumeaux. Quand il dit, bon, d'après l'astrologie, deux jumeaux devraient avoir la même destinée, exactement la même, puisqu'ils sont nés avec quelques instants des différences en même temps, hein, de la même mère. Donc, mais il y a des exemples historiques, et lui, Augustin les présente, des exemples historiques qui nous ont dit que la fortune, la destinée des jumeaux, des deux jumeaux peuvent être, les destinées peuvent être complètement indifférentes l'une de l'autre. Donc l'astrologie est un absurde. Donc la présence de signes astrologiques dans notre tableau nous donne l'idée d'une détermination naturelle, parce que s'il est possible de tracer un horoscope du Christ, ça veut dire que les astres ont eu une influence, une puissance sur le fait même de la naissance du Christ. C'est-à-dire, pour l'idée de l'époque sur le fonctionnement du monde, il s'agirait de naturaliser l'histoire du Christ, c'est-à-dire d'une détermination naturelle, quoique extraordinaire, bien sûr, parce que c'est une seule fois dans toute l'histoire des astres, de l'astronomie, on a eu cette conjonction particulière en coïncidence avec une nouvelle ascension du signe de la Vierge. Bon. Mais sans écarter un principe, l'intervention de la grâce, la venue du Christ serait ainsi associée en même temps à une conjoncture unique des astres et des étoiles. Mais le sens de ce signe serait finalement dépassé par l'acte d'amour de l'accueil qui suscite la reconnaissance. Là, on pourrait revenir à Augustin. Mais il y a un autre détail qui est très intéressant, c'est ce chat. Qu'est-ce qu'il fait ce chat qui montre cet écriteau avec la signature du peintre? C'est bizarre. Chat, on pourrait, au moins, j'essaie de l'expliquer, c'est hypothétique, je pense que s'agirait d'une référence à Satan, qui, selon Augustin et Laglos, aurait empêché les pèlerins de voir et identifier le Seigneur avec l'homme qui accompagne les deux voyageurs vers Emmaüs. Donc il est un peu ironique que ce soit le chat lui-même qui nous montre le nom du peintre, du créateur de l'œuvre. Sachez que ce n'est pas seulement le chat est un élément peut-être diabolique, mais il est presque toujours, dans les premières années du XVIe siècle aussi, une référence comique. Chaque fois qu'il y a un chat, il y a un élément comique qui s'introduit. Je pourrais vous présenter beaucoup d'exemples, mais c'est sûr que vous vous rappelez d'une représentation de l'Annonciation de Christ faite par Lotto dans ces années, où il y a un chat qui complètement effrayé par la présence du Saint-Esprit, court. Non, et c'est vraiment très, très, très bizarre, très drôle, très comique. Mais aussi, ça a été interprété comme une présence de Satan qui fuit devant la présence du Saint-Esprit. Bon, alors il faut dire un mot sur les personnages présents dans le tableau aux côtés des protagonistes de l'histoire. Donc l'homme à gauche de Jésus a été identifié, celui-là, à Tommaso Raimondi, juriste, poète et humaniste de Crémone, habillé ici en juge, puisqu'il l'était, avec son bonnet, sa baguette et le col de fourrure. En effet, le portrait ressemble assez à celui fait par le même Marziale, ici, je le prends d'ici, et c'est un tableau signé par Marziale aussi, c'est le portrait qu'il a fait dans cette grande table d'autel de la circoncision que la famille Raimondi a commandé pour l'église de Saint-Sylvestre à Crémone en 1500. La peinture est aujourd'hui à la National Gallery de Londres. On peut trouver aussi une ressemblance intéressante entre l'homme de la baguette, un autre portrait, celui-là, qui est un portrait certain de Tommaso. Ici, il y a une inscription qui dit « Tommaso Raimondi », c'est lui, sans aucun doute, attribué au bolognais Amico Aspertini. Il se trouve à Madrid, à la collection Thyssen-Bornemisch. L'enfant, donc, l'enfant à droite de Jésus serait donc un fils de Raimondi, Marco Raimondi. Mais là, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que Marco est certainement l'enfant qui se trouve ici, hein, dans la circoncision. Il avait l'âge. Hein. Il est né en 1493. Donc c'est un garçon de 7 ans à l'époque. Mais ici, alors ça a été peint en 1507. Ça, c'est, pour moi, ça c'est un problème. Et c'est-à-dire que 7 ans se sont écoulés entre l'œuvre à la National Gallery, ici, et la table de Maius à Berlin. Un autre enfant n'a pas grandi. Je me demande s'il ne serait pas possible d'identifier donc l'homme à gauche, celui-là, avec un autre Raimondi, le voilà, qui était un peu plus maigre 7 ans auparavant, hein, qui s'appelait Eliseo Raimondi. Il était le frère de Thomas. L'enfant, hein, au tableau de Berlin serait donc le fils d'Eliseo. Et c'est pas, j'ai vu que Nicolas Penny, hein, de la National Gallery de Londres, a suggéré aussi cette identification. Mais ni Penny ni moi n'avons pu trouver la date de naissance du fils de Eliseo. Mais de toute façon, Eliseo était architecte, et d'après les notizie historiche sur les artistes crémonais, écrites par Giambattista Zeist, hein, et publiées en 1774, je cite, « Eliseo s'est plongé dans la spéculation profonde des arts dits libéraux, a acquis spécialement en plus grande acuité dans la doctrine des livres de la science des mathématiques et de l'astronomie. » Donc, cette familiarité avec les mathématiques, si vous permettez, expliquerait mieux aussi la présence des signaculae astrologiques dans la table. Donc, il y a deux possibles hypothèses sur cette étrange présence. Bien, alors je passe au tableau de Mellone. La chronologie des commandes concorde avec la proximité entre l'artiste et l'ordre régi par la règle d'Augustin à Crémone. Ce qui nous permettrait de placer cette représentation du voyage à Emmaüs sous l'influence aussi de l'augustinisme. Vasari a écrit sur Mellone. Je cite, « Altobello a fait à l'église de Saint-Augustin de la même ville de Crémone les fresques d'une chapelle avec un style beau et gracieux, comme chacun peut y voir. Ce cycle est consacré à la vie du Saint-Père de l'Église. L'œuvre qui nous concerne a singulièrement attiré l'attention de tous les historiens des XVIIe et XVIIIe siècles. Filippo Baldinucci l'a mentionné dans sa brève biographie du peintre. » Oui, il y a toute une citation. Autour de 1770, Giambattista Zeist, celui qui avait écrit les notices historiques sur les artistes de Crémone, a dédié 5 pages à l'artiste et commenté aussi la pièce qui nous intéresse. Il dit, de sa main, on trouve, au baptistère de l'église de Saint-Barthélemy, dans notre ville, une table peinte à l'huile où il a noblement représenté le fait évangélique des deux disciples qui vont au château d'Emmaüs, œuvre vraiment très louée, dont Baldinucci a fait une très juste mention. Sur la gauche du tableau, le Christ ressuscité, portant le chapeau, la cape, le bâton du pèlerin, étrangement jeune, apparaît. Son attitude suspend la marche des disciples qui, surpris, pleins de peur, se retournent pour le regarder. Séraphine y trouve que l'attitude des personnages glisse vers le grotesque. Une observation qui nous oblige à revenir sur le chat découvert en bas de la table de l'œuvre de Martiale. L'animal aurait introduit un trait comique, comme je vous avais dit, inattendu dans la scène. Il y a ici un territoire à explorer si l'on pense que le rire a été un élément central du monde artistique des provinces nordiques de l'Italie entre les années 1510 et 1540. Il nous suffit de nous rappeler du Baldus de Folengo et de la peinture de Romanino, dont le rapport avec le comique a été bien étudié par Alessandro Nova. Mais permettez-moi d'abandonner aujourd'hui cette ligne de ma recherche. Remarquons que dans l'œuvre de Melone, le paysage de fond présente deux détails. Voilà le paysage. Deux détails qui complètent le récit de Saint-Luc. Ici, un détail ici, et l'autre détail, plus clair là. Sur la gauche, il y a une vue du sépulcre du Christ, une madeleine agenouillée et la silhouette de Jésus s'approchant. Cela est un olim et tangere. Au centre du paysage apparaissent les trois voyageurs allant vers Emmaüs, de dos. Il s'agit de l'un des moments où l'inconnu explique à ses compagnons, avec une stupéfiante sagesse, les préfigurations et les annonces du Christ dans les Écritures. Que Mélone ait été l'élève de Martiale est chose acceptée et acquise à présent. Actif à Crémone lui aussi, il est presque certain qu'il a connu la variante de la scène commandée par Raimondi. Ce n'est pas donc arbitraire de supposer que le tableau de Mélone serve à tâche du point de vue de la signification à celui de Martiale. D'abord, il est évident, voilà l'un et l'autre, je vais essayer de souligner les rapports possibles. Altobello a concentré le rôle du pèlerin exclusivement dans la figure de Jésus, d'une façon si évidente qu'il paraît légitime de dire que ce tableau de Crémone est le plus radical de ce que nous venons d'appeler la troisième formule du sujet. Toute la sensibilité humaine est impliquée dans le récit. La sensibilité, les sens, je veux dire. D'abord, le plus loin du plan où se déroule l'action principale, là, hein, le nolli me tangere est l'apothéose de Louis, qui reconnaît ce que la vue serait fixe à accepter et ce que le toucher ne peut pas, hein, ne peut pas vérifier. La voix du Seigneur superposée à la vision de son corps illuminé et glorieux. Le toucher reste interdit comme soutien de la foi. Et je m'en remets à l'essai extraordinaire de Jean-Luc Nancy sur ce point. J'y reviendrai vers la fin de cette conférence au sujet de la résurrection comme gloire au cœur de la mort. Mais l'image conçue par Mélone réinstalle le toucher ici, en première ligne. Bien que ce soit le pèlerin, le Christ, qui touche Cléophas fuyant et l'oblige à le regarder. Une deuxième fois, la vue ne suffit pas. Finalement, nous savons que les causeurs vers Emmaüs, ici, sont saisis par la parole du nouveau venu qui embrasse leur cœur. Donc sensibilité et logos échouent dans le processus de la reconnaissance du ressuscité. Seule la charité, mise en scène grâce au banquet auprès de la maison d'Emmaüs, qu'on contemple dans le tableau de Martiale, permet que la communication entre, d'une part, les âmes aveugles et garé jusqu'à ce moment des disciples, et d'autre part, la totalité humaine, la totalité d'âme et corps du Christ révèle la vérité sur la personne qui a vaincu la mort. Cléophas et le jeune disciple sont devenus des pèlerins comme lui, homines viatores, dont le triomphe sur la mort est assuré par la présence finalement reconnue de Jésus. Bon, il me faudrait maintenant suivre les avatars de l'iconographie à l'intérieur de l'école vénitienne de peinture, approfondir la signification des différents chemins suivis pour représenter l'effet d'Emmaüs, la voie contemplative, par exemple, chez les Titiens, là. La voie dynamique troublante chez le Tintoret, ici. Les manifestations inattendues, de la réalité de la résurrection dans la fête des patriciens que nous montre l'art du Véronèse, ou bien dans la vie de tous les jours des gens communs que nous étale la peinture de Jacopo Bassano. Je regrette de ne pas avoir le temps de le faire aujourd'hui car je tiens à vous proposer la considération de mes recherches dans le champ de la peinture nordique du XVIIe siècle. Il y a un fondement historique pour rendre légitime, du point de vue historiographique, ce saut dans l'espace et dans le temps. Une base pourvue par deux événements au moins. D'abord, c'est la circulation des gravures des peintures vénitiennes de notre sujet au nord des Alpes, très intense à partir des années 1570-70-80 et pendant tout le 600. Je vous montre ici quelques exemples que j'ai trouvés à Berlin, des gravures. Cette gravure est prise de ce tableau, évidemment, de ce tableau de Titien, cette gravure de ce tableau de Véronèse. Ce sont des gravures flamandes. Et dans ce cas, vous avez, c'est un autre sujet, ce n'est pas la scène de Maïs originellement, mais c'est Bassano aussi, et c'est l'épisode de l'évangile du riche et plus long, mais qui est pris ici comme modèle pour une scène à Emmaüs gravée. Mais ça prouverait la grande circulation des images vénitiennes, des compositions et des interprétations iconographiques vénitiennes dans les Pays-Bas depuis la fin du XVIe siècle. Donc, allons maintenant à la peinture nordique du XVIIe siècle, dont j'ai essayé de prouver la connexion, il y a eu le contact étroit qu'il y a eu avec les solutions de l'art vénitien. En 1610, peu après son retour d'Italie, où il était resté 8 ans, Rubens a introduit une façon de représenter la scène à Emmaüs qui a eu une immense fortune dans les écoles nordiques de peinture. Pierre Paul a pris l'exemple du Caravage quand il a illuminé la scène. Ça c'est une peinture en fait par Rubens en 1610. La lumière est sagement dirigée vers les têtes, les grimaces, les gestes des personnages pour renforcer les émotions provoquées par la vision du drame. Peut-être l'Anversois est-il allé au-delà même de son modèle caravagesque. Un an plus tard, le graveur Willem Isaacs van Swanenborg a édité une taille douce du tableau, voilà, avec un grand succès. L'inscription latine qu'il a ajoutée, comme dit Daskali, attache un sens nouveau à la représentation de l'épisode. Je la traduis. C'est comme ça. Si quelqu'un doute au sujet de qui serait aujourd'hui notre appel dans l'art, c'est-à-dire notre appel, c'est le peintre de l'Antiquité, qui serait, dans le temps présent, notre appel, se demande Willem Isaacs, le graveur, nous enverrons ce chercheur de la sagesse à l'oracle de Manus à Delphes. Je vous prie de vous souvenir de ça. Non, on voit la sagesse à l'oracle de Manus à Delphes. Tu surpasses maintenant, il s'adresse au peintre, tu surpasses le Christ lui-même quand tu reviens à la forme visible. Mais ce serait au contour visible. Non, le texte dit « Illuminis horas ». Ça continue, la citation continue. Il n'y a pas de doute, comme les deux hommes furent émerveillés quand ils ont vu le partage du pain à Emmaüs après sa mort, nous admirons l'histoire peinte par notre appel, que serait Rubens. La reconnaissance de l'excellence de l'artiste, Rubens en ce cas, comparable à la grandeur d'appel, se superpose à la révélation du Christ à Emmaüs qui aurait aussi un écho dans les oracles des païens à Delphes. Ces parallèles pourraient nous mener très loin, surtout si l'on pense que les anciens reliaient la consultation des oracles à la configuration de la vie. Le premier livre des histoires d'Hérodote renferme des récits sur Crésus, Solon et les origines du royaume des Mèdes et des Persans, enchevêtré aux rêves et voyances de la Pythie delphique ou d'autres oracles qui déterminent le destin des rois, des courtisans, des citoyens, des athlètes. La narration faite par Solon devant le roi Crésus, et enregistré par Hérodote, sur le bonheur de l'existence accomplie des deux jeunes gens, Cléobis et Biton, qui meurent dans le temple d'Héra après avoir gagné les Jeux à Delphes, nous apprend qu'il n'y a pas de configuration complète ni authentique de la vie avant qu'elle arrive à son terme, jusqu'à l'installation de la mémoire que l'histoire et l'art conservent d'elle. Il semble valable de lire aussi l'histoire d'Emmaüs en ces termes et de prendre le ressuscité comme un homme en quête de la reconnaissance de sa mort et de sa résurrection, ce qui compléterait paradoxalement la configuration de sa vie exceptionnelle. Serait-ce un hasard qu'un certain nombre de peintres nordiques du XVIIe siècle, par exemple Franz Franken II et Juan Holtz, aient incorporé le sujet de Solon devant Crésus en parallèle à leurs travaux sur le cycle de Marius? Bon, je laisse à part cette ligne de recherche pour une autre fois. Je n'ai pas encore trouvé le lien, mais je vous jure que je le ferai. Bon, si ça existe, bien sûr. Les maîtres hollandais qui se sont formés à Rome entre 1610 et 1630 sous l'influence de Caravagesque sont rentrés en Hollande et ont élaboré un rendu de la scène très concentré sur le phénomène de la source de lumière visible dans le cadre du tableau. La bougie illumine et relève les expressions d'étonnement des disciples et le dévoilement qui permet de reconnaître la personne du Christ. Cet exemple d'une œuvre de Matthias Stommer, Matthias Stommer qui était un collègue intime précisément de Rondhaus, est un des exemples les plus touchants. Quoi qu'il en soit, à l'horizon de la peinture européenne XVIIe et XVIIIe siècle, notre sujet, Emmaüs, a été particulièrement mis en rapport avec la circulation de gravures et de dessins copiés ou inspirés de représentations de l'épisode de Saint-Luc réalisé par Rembrandt entre 1625 et 1660. Il y a un témoignage que nous a laissé Arnold Houbraken dans le Grand Théâtre des artistes et peintres néerlandais, un texte publié juste au début du XVIIIe siècle. Et je vous cite le passage. Monsieur Houbraken dit ça. « Je ne connais personne qui ait introduit autant de variantes et autant d'aspects différents dans ses études d'un seul thème que Rembrandt. Les collectionneurs de dessins connaissent bien les nombreuses ébauches, sans compter les gravures, de la scène où le Christ, rompant le pain, est reconnu par les deux disciples qui avaient voyagé avec lui à Emmaüs. Et on ne compte pas moins d'ébauches des deux disciples stupéfaits et émerveillés lorsqu'ils réalisent que le Christ disparaît devant leurs yeux. » Bon, ça c'est la citation de Houbraken. Parmi les dessins de Rembrandt, nous pourrions mentionner ceux qui sont conservés au Harvard Art Museum et au Fitzwilliam Museum. Voilà, les deux. Parmi les gravures, une forte, une taille douce de 1634, et les deux à la maison de Rembrandt à Amsterdam. Parmi les peintures, bien sûr, celle du Louvre, celle-là, faite en 1648, et celle extraordinaire du musée Jacquemart-André à Paris, exécutée en 1628-1630. Vous avez l'occasion de voir toutes les deux dans votre ville. C'est l'analyse du dernier exemple, celui-là, qui nous intéresse le plus, car l'expérience de Rembrandt avec le clair-obscur y atteint une radicalité rarement vue jusqu'alors, et même par la suite jusqu'au XVIIIe siècle. Tandis que l'un de deux disciples tombe à genoux, ici, à peine le voit-on, est pratiquement dévoré par l'ombre, le Christ et la servante, du fond, sont eux-mêmes des corps perçus du côté de l'ombre. Le profil majestueux de Jésus s'éloignant de la table, découpé par la lumière intense d'une bougie et entouré d'une aura qui illumine tangentiellement les mains de l'hôte dans l'acte de rompre le pain, renvoie à l'homme provenant des ténèbres dont la présence est désormais le témoignage de sa propre victoire sur la mort. Dans le sillage de Raphaël, de la fresque de la libération de Saint-Pierre, Rembrandt est allé plus loin, convertissant le ressuscité en silhouette. À partir de ce moment-là, le motif de la silhouette se transformera en signe visuel du mort qui revient. Dans l'atelier de Rembrandt, Svetlana Alpes a suggéré que le célèbre théâtre d'ombre que Samuel van Hoogstraten a proposé en 1678 comme un système d'apprentissage de la projection de figures a pu être basé sur une pratique semblable dans l'atelier de Rembrandt dont Hoogstraten avait été le disciple.
Là, il y a une gravure qui représenterait cette pratique dans l'atelier de Rembrandt.
Néanmoins, Houbraken a propagé les œuvres de Rembrandt en voulant lui-même composer une scène à Emmaüs avec les caractères qu'il avait fascinés dans l'art du maître. Ça, c'est une image de Houbraken, prise, une gravure que Houbraken compose, évidemment, prise de ce dessin de Rembrandt. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il dit Hoogstraten, Houbraken, de cette image que lui-même il compose ? Nous avons nous-mêmes gravé et placé ici, comme exemple pour les jeunes peintres encore inexpérimentés, une de ces ébauches que nous apprécions particulièrement en raison de l'expression extraordinaire de stupeur que manifeste le regard muet orienté vers la chaise vide sur laquelle le Christ était assis un instant avant de disparaître. La silhouette de l'un des disciples, celle-là, et l'ombre projetée par l'autre sur le mur forment les arêtes d'un triangle complété par la chaise sur laquelle le Christ est devenu un disparu. Donc, une longue recherche menée cette année au Wissenschaftskolleg sous Berlin m'a permis de tracer le parcours de la silhouette et de sa multiplication comme forme privilégiée de la représentation du massacre et de la mort de milliers d'hommes lors des génocides du XXe siècle. Je vous donne un seul exemple. Je ne peux pas, parce que c'est vraiment un tas de... C'est une chaîne assez bien composée. Je vous donne un seul exemple. C'est les silhouettes qui ont une présence cruciale dans l'œuvre de l'artiste chilien Alfred Hoyar qui s'appelle « Géométrie de la conscience », situé sous la place du Musée de la Mémoire à Santiago de Chile. L'œuvre est enterrée en face du musée dans ce qui semble être une cicatrice. La descente dans cette chambre de la mémoire mène à un espace sombre, peu à peu envahi par des rayons de lumière filtrés par d'innombrables silhouettes. Contrairement aux silhouettes opaques, utilisées surtout en Argentine, celles-ci sont devenues des surfaces homogènes et lumineuses. Certaines représentent des victimes de la dictature, d'autres des citoyens chiliens contemporains. Une fois que nous avons été éblouis, l'éclat lumineux s'éteint. Au milieu de l'obscurité, les spectateurs gardent quelques secondes encore les traits des silhouettes gravés sur leur rétine. Cet assemblage de lumière et d'obscurité renvoie aux relations entre présence et disparition, entre absence et mémoire. De plus, l'ampleur du nombre de silhouettes impose une sensation d'énormité qui reflète le caractère massif de la tuerie et le dommage atroce qu'il a produit dans le tissu social du Chili. Par ailleurs, il est possible que la géométrie de la conscience nous pousse à interpréter le jeu d'images entre absents et survivants comme une sorte de rite funéraire. L'un des traits les plus déchirants de la relation entre le disparu et ses proches est qu'il n'y a eu ni rite ni reconnaissance post-mortem de son effigies dans un cadavre. Nous pourrions dire que la figure du disparu en Amérique latine
revêt le profil d'une existence inachevée. La silhouette et son interaction avec les vivants fourniraient la forme nécessaire à la configuration juste et définitive de ces vies perdues. Mon hypothèse pointe sur les origines de la silhouette ou d'autres formes liées à l'idée du doppelganger à l'intérieur de l'iconographie chrétienne et de l'herméneutique des évangiles qui essayent de représenter, interpréter, comprendre l'épisode magnifique du pèlerin d'Emmaüs. C'est dans cette histoire unique, inédite, inventée vers l'an 100 de notre ère, mais où réverbère peut-être le texte d'Hérodote, le mythe de Philémon et Baucis, le passage de l'Odyssée sur l'ombre d'Elpenor, et bien sûr la rencontre de Joseph et ses frères en Égypte, que se déploie l'idée nouvelle d'une résurrection accomplie au cœur de la mort. Ici, je retrouve le texte Nolim et Tangere de Jean-Luc Nancy. Peut-être la reconnaissance, la récupération imaginaire des corps qui ont appartenu aux ombres, aux spectres qui nous hantent, sont-elles des possibilités fondées sur un retour à la vie, un nachleben, comme le dirait Warburg, de la consolation pleine et mystérieuse qui nous vient d'Emmaüs. Merci beaucoup.